Vous écoutez, on lit pour vous.
Québec, appelé à investir davantage pour limiter les risques climatiques? Un texte d'Alexandre Shields, paru le 20 juin 2025 dans Le Devoir. Le Québec n'en fait toujours pas assez pour se préparer à affronter les impacts de la crise climatique, estime le coprésident du groupe d'experts en adaptation au changement climatique, GEA, mis sur pied par le gouvernement Legault, Alain Bourque. Ce dernier salue toutefois les progrès réalisés et les nouveaux investissements annoncés récemment, malgré un contexte nord-américain tourné vers les reculs en environnement. Le gouvernement Legault a dévoilé son plan de mise en œuvre 2025-2030 du plan pour une économie verte 2030, qui est désormais doté d'un budget de 10,1 milliards de dollars sur 5 ans, des fonds qui proviennent principalement du marché du carbone. De cette somme, 1,3 milliard de dollars seront consacrés à l'adaptation climatique qui est nécessaire pour se préparer aux multiples impacts déjà concrets et ceux à venir. Québec ajoute notamment 305 millions de dollars dans la planification et la mise en place des solutions d'adaptation aux inondations, 177 millions de dollars dans des projets d'adaptation aux risques liés à la chaleur et aux pluies abondantes, et 143 millions pour réduire les risques d'érosion et de submersion côtière dans les régions maritimes. Alain Bourque, qui est aussi directeur du consortium sur la climatologie régionale et l'adaptation au changement climatique Ouranos, réitère toutefois que les investissements ne sont toujours pas à la hauteur. Par rapport à la science et à l'ampleur des risques qui augmentent, la communauté scientifique recommande généralement davantage d'investissements. Est-ce qu'il y en a assez? Non, selon les scientifiques. Il cite en exemple les 177 millions pour se préparer aux risques de la chaleur et des inondations, notamment lors d'événements de précipitations extrêmes. Ce n'est pas suffisant, compte tenu de l'ampleur des investissements requis pour réduire les risques des inondations. M. Bourque le répète d'ailleurs depuis plusieurs années. Il faut développer, voire accélérer plusieurs mesures afin de se préparer à une hausse d'épisodes de chaleur qui seront de plus en plus intenses, à la dégradation d'infrastructures critiques, comme les routes, à des risques de feux de forêt amplifiés, à la propagation de zoonoses et même à d'éventuels problèmes d'accès à l'eau potable. Le système de santé risque aussi d'être mis à rude épreuve, selon les données scientifiques disponibles. Une étude commentée par l'Union des municipalités du Québec et publiée en 2023 chiffrait les seuls besoins des municipalités à plus de 20 milliards de dollars sur une période de 10 ans, essentiellement pour les infrastructures routières et de gestion des eaux. Dans une série de recommandations formulées l'an dernier, le GEA insistait aussi sur la nécessité de stopper la destruction des milieux naturels et de travailler à restaurer ceux qui ont été dégradés par l'activité humaine, y compris les forêts. Progrès. À la lumière des gestes posés par le gouvernement Legault, Alain Bourque estime que l'avis des scientifiques a été entendu. Il y a des progrès et il y a des annonces qui vont dans le sens des recommandations, même si elles ne sont pas toutes là non plus, nuance-t-il, tout en rappelant que les fonds globaux consacrés à l'adaptation sont en progression. Celui qui est aussi membre du comité consultatif sur les changements climatiques mis sur pied pour conseiller le gouvernement Legault salue le fait que le Québec garde le cap malgré des tendances inquiétantes chez nos voisins. Lorsqu'on se compare au reste de l'Amérique du Nord, on constate que le Québec en fait beaucoup plus que d'autres régions, surtout avec les changements de la dernière année, dit-il, en citant les reculs sur la tarification carbone fédérale et les conséquences de la réélection de Donald Trump. M. Bourque rappelle du même souffle que, sans le marché du carbone, il y aurait très peu de ces investissements qui se réaliseraient. Il ajoute que le gouvernement fédéral devrait emboîter le pas pour soutenir les provinces pour faire avancer l'adaptation de façon beaucoup plus coopérative. Le Canada a beau être déjà frappé de plein fouet par la crise climatique, Ottawa n'a toujours pas mis en place de stratégie efficace pour faire face aux effets du réchauffement climatique, prévenait récemment le commissaire fédéral à l'environnement et au développement durable. Le réchauffement planétaire avoisine déjà le 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle et il pourrait dépasser les 3 degrés Celsius d'ici quelques décennies. Le Canada, se réchauffant deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale, cela signifie que des effets multiples sont à prévoir selon les experts du climat. Selon le ministère de l'Environnement du Québec, la température moyenne a dépassé de 3,9 degrés Celsius la normale du siècle dernier dans la province l'an dernier. Une cible climatique compromise par Trump? Selon le gouvernement Legault, le plan de mise en œuvre 2025-2030 permettra de réaliser 65 % des mesures pour atteindre l'objectif de 37,5 % de réduction de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. Ce pourcentage constitue un recul si on le compare avec la dernière mise à jour annuelle du plan présentée au même moment en 2024, qui indiquait que le gouvernement avait identifié et financé 67 % des mesures pour atteindre l'objectif de 37,5 %. Cette légère révision à la baisse s'explique, entre autres, par l'incertitude économique et politique engendrée par l'arrivée du nouveau gouvernement fédéral américain, selon le plan de mise en œuvre. L'incertitude économique, créée par l'imposition de droits de douane, aurait pour effet de freiner les investissements, y compris ceux en décarbonation. En outre, les actions du gouvernement Trump qui visent à renverser les mécanismes de tarification du carbone de différents États américains crée une pression négative sur les prix de marché et, par conséquent, sur les réductions d'émissions de GES. C'était Québec appelé à investir davantage pour limiter les risques climatiques? Un texte d'Alexandre Shields paru le 20 juin 2023 dans Le Devoir.
«
L'histoire de Montréal envisagée depuis la France, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 25 juin 2025 dans Le Devoir. Une grande exposition consacrée aux origines de Montréal est présentée en France, plus précisément à Troyes, en Champagne, jusqu'en novembre 2025. Prétexte? Plusieurs figures de ce coin de pays, la Champagne, ont traversé l'Atlantique pour participer à l'aventure de la fondation de ce qui deviendra la métropole québécoise. Le département de l'Aube et son service des archives ont donc choisi de placer toute l'année 2025 sous le signe de cette histoire peu fréquentée dans l'Hexagone. Il était une fois à Montréal, les Champenois en Nouvelle-France, vient d'ouvrir ses portes. Cette exposition affirme être la plus ambitieuse du genre jamais présentée en France. Elle compte sur plus de 200 documents d'archives, des manuscrits, des œuvres d'art, des objets archéologiques et ethnographiques, ainsi que des reconstitutions graphiques. La force de l'exposition tient au nombre d'archives françaises, indique Mario Robert, ancien chef de la section des archives de la ville de Montréal et président de la Société historique de la même ville. Elles n'ont jamais traversé l'Atlantique, indique-t-il au Devoir. Parmi les curiosités présentées, cet expert fait mention d'un plan de Montréal de 1685 ou d'un autre plan, conservé chez les Sulpiciens de Paris, qui montre la seigneurie de Montréal en 1702. Méconnu. Mario Robert a été invité à prononcer une conférence dans le cadre de cet événement. L'exposition, explique-t-il, porte sur l'apport des Champenois à la fondation de Montréal et à toute l'histoire de la Nouvelle-France. Un sujet tellement méconnu en France, même s'il y a une avenue chemedée de Maisonneuve à Troyes et un lycée Jeanne-Mance, précise-t-il. Tout de même, on connaît un peu mieux Marguerite Bourgeois, car elle est de Troyes. L'exposition aborde d'autres Champenois en lien avec le Nouveau Monde, comme Claude de Ramsay, le Père le Jeune, Jean Talon ou encore Médard Chouard des Groseilliers. Cette expo est une excellente intro à la Nouvelle-France pour les Français, souligne Mario Robert. Quant à eux, les organisateurs estiment qu'elle vaut le déplacement pour les Canadiens. Cet événement aborde les diverses raisons du départ, les conditions de voyage et d'installation en Nouvelle-France, la vie quotidienne sur place, la contribution à la communauté, les relations avec les Premières Nations. Elle évoque également la question de la mémoire de cette histoire, de part et d'autre de l'Atlantique, et des liens forts qui unissent encore aujourd'hui le Québec et la Champagne. Parmi les documents exceptionnels présentés, un manuscrit à l'écriture soignée, la narration de la mission du Sceau depuis sa fondation jusqu'en 1686, rédigé et illustré par le père Claude Chauchetière. Ce document, venu des archives de la Gironde, livre des représentations uniques des Mohawks au XVIIe siècle. Le visiteur peut aussi apprécier les reproductions à la plume de pictogrammes autochtones attribués au travail de Pierre-Joseph-Marie Chaumonneau. Elles indiquent notamment des noms de clans attribués à la nation Sénéca vers 1666. Le père Chaumonneau est mort à Québec en 1693. Entre 1677 et 1686, il se trouvait à la mission jésuite de la Prairie sur la rive sud. Ses écrits étaient ornés de dessins à l'encre sépia. Parmi les autres documents français très rares qui peuvent être vus à cette occasion, il y a les actes de naissance de Chomedey de Maisonneuve, de Jeanne Mance et de Marguerite Bourgeois, ainsi que le testament de Maisonneuve et, surtout, un petit document autographe de Jeanne Mance qui fait état de la guérison miraculeuse de son bras droit 2 ans après un accident. L'écriture apparaît difficile, laborieuse. En 1659, lors de son voyage en France avec Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance affirme être miraculée après avoir touché une relique préservée de Jean-Jacques Ollier, son cœur. Parti en croisade pour évangéliser le Nouveau Monde, Ollier était mort 2 ans plus tôt. Les filles du roi. L'œil du visiteur est attiré par quantité de documents, assure Mario Robert. On trouve par exemple une représentation colorée de l'embarquement des filles du roi pour la Nouvelle-France, une encre sur papier vraisemblablement du XVIIe siècle. La population de la Nouvelle-France étant à large majorité masculine, près de 800 femmes sont expédiées outre-Atlantique entre 1663 et 1673. Les 2/3 des filles du roi sont des orphelines venues des environs de Paris. Les autres, des femmes attachées à un monde provincial. Cette illustration est la seule représentation d'époque connue à ce jour des filles du roi. Elle montre une scène d'adieu au moment de l'embarquement sur les navires. Les musées et archives du Québec ont prêté pour leur part de nombreux objets et documents. Pour tous ceux qui ne peuvent visiter l'exposition, le dernier numéro de la Revue d'Histoire de la Nouvelle-France présente quelques-uns des objets. Il sert en fait de catalogue à l'exposition. À Troyes, note Mario Robert, ce numéro est en vente partout. La Revue d'Histoire de la Nouvelle-France est publiée au Québec par les éditions du Septentrion. L'exposition « Il était une fois Montréal, les Champenois en Nouvelle-France » est présentée jusqu'au 2 novembre 2025. C'était « L'histoire de Montréal envisagée depuis la France », un texte de Jean-François Nadeau, paru le 25 juin 2025 dans Le Devoir.
Souvenirs d'adolescence et de moments magiques grâce à Serge Fiori, un texte de témoignage paru le 26 juin 2025 dans Le Devoir. Avec la mort de Serge Fiori, le Québec perd une figure emblématique de la chanson. Des lecteurs du Devoir témoignent de ce qu'évoque pour eux l'ancien leader iconique du groupe Harmonium. Il n'était pas un musicien parmi tant d'autres. Marie-Claude Dupont. On dit souvent que la musique de notre adolescence est celle qui, fondamentalement, nous marque le plus. On y reste attaché peut-être parce qu'elle ravive les souvenirs d'une période intense de découverte de soi et de construction identitaire. Je me souviens ainsi de l'endroit exact où j'ai écouté pour la première fois certaines chansons, certains artistes. Malgré ma mémoire défaillante, je replonge ainsi des décennies en arrière, avec en tête les émotions vécues à la première écoute de Dark Side of the Moon, Hotel California et d'autres morceaux emblématiques de ma jeunesse. L'album Harmonium est le tout premier disque vinyle que j'ai acheté avec mon argent de poche, suivi de Breakfast in America de Supertramp et de l'album de Beau Dommage. C'était un trio de feu pour moi qui fut élevé dans une famille où la musique avait une importance capitale et où tous les genres trouvaient leur place dans nos cœurs. Aucune compétition. Que du plaisir à écouter le chœur de l'armée russe, des mélopées de cowboy, des nocturnes de Chopin ou Take a Brick de Jethro Tull. Je me suis donc rué sur les paroles de Serge Fiori, comme la misère sur le pauvre monde. me reconnaissant instantanément dans cette nouvelle musique, ces mots. C'est probablement l'un des rares albums dont je pouvais réciter et chanter toutes les chansons. Les mélodies, les textes, la sensibilité du chanteur, la virtuosité des musiciens. En fait, tout était en place pour combler l'appétence des jeunes d'alors, dont j'étais, qui cherchaient un sens à leur vie, recherchaient des modèles culturels forts. Se trouvait inscrite dans ce terreau d'harmonium une recette unique qui s'est propagée à la vitesse de l'éclair et qui a culminé par la suite avec les 5 saisons et l'incontournable album concept « L'Heptade » en 1976. Serge Fiori était une voix, une tessiture imparfaite, mais parfaitement singulière, qui le plaçait au top de mes artistes favoris. Sa sensibilité exacerbée que j'ai redécouverte des années plus tard, lorsqu'il est revenu avec un album à son nom, m'a toujours ému. Je me souviens d'avoir réécouté ses chansons en me disant que cet homme était un sage, sans le savoir. Il nous guidait vers une conscience aiguë de l'existence, sans ostentation ni tapage. Aucune arrogance en lui. Son message était à la fois puissant, simple et doux. Sa mort coïncide avec la Saint-Jean-Baptiste, alors que nous sommes tous ou presque happés par cet élan nationaliste qui n'arrive qu'une fois par année. Il n'y a pas de plus beau départ, même si son absence sera ressentie pendant longtemps. Pour plusieurs, Carl Tremblay incarnait l'espoir de toute une génération. Pour la mienne, en tout cas pour moi, Fiori était l'icône suprême. Il n'était pas un musicien parmi tant d'autres. C'était un extraordinaire créateur, parmi les plus grands que le Québec a connus. Plus que jamais aujourd'hui, il faudra l'écouter, le réécouter, le célébrer. Un phare. Claude Girard. Fiori évoque la dualité québécoise, sa fragilité assumée et la résilience du coureur de fond, du coureur des bois, de par la pérennité de son œuvre. José-Anne Simard. Serge Fiori, c'était le phare du groupe Harmonium, un parolier génial qui a marqué une des plus belles époques du Québec moderne. Les paroles des chansons étaient poétiques, les mélodies harmonieuse. Il était le chef d'orchestre, en quelque sorte, de ce groupe original qui a magnifié la langue française du Québec. L'époque de la sortie des 3 albums cultes était celle de l'apogée du nationalisme québécois. Un grand moment d'espoir et de fierté qu'accompagnaient aussi des leaders inspirés. Le groupe s'est éteint, mais l'œuvre monumentale a survécu. Merci Serge Fiori pour votre immense talent et pour tous ces morceaux iconiques que nous chantons ce soir avec nostalgie. Yves Desormeaux. Il y a des époques et ceux qui marquent ces époques. Et il en était, par son talent musical. Il en a fait une merveilleuse. Puissions-nous nous en inspirer pour la suite du monde. Sylvie Gauthier. C'est vraiment triste. C'est ma génération qui commence à partir. J'ai tellement chanté ces chansons-là. Descendu les rues vers le métro après le spectacle du Sepsum de l'Université de Montréal, j'ai 14 ans et tout le monde chante sur le chemin. Ça fait du bien de se voir, ensemble dans un lieu d'espoir. Je crois en toi tellement fort, si on chantait encore. Quel moment magique que je n'oublierai jamais. Merci Serge pour ce trip. R.I.P. Une petite révolution. André Lamoureux. De 1970 à 1975, parallèlement à mes études post-secondaires, il m'a été donné de travailler comme garçon de table, serveur, à la boîte à chansons Le Patriote, cette fameuse salle de spectacle de Montréal où se produisaient les meilleurs artistes populaires du Québec et de la France, qu'ils fussent chanteurs ou chanteuses, groupes musicaux ou humoristes. Tout cela dans un contexte d'explosion de la culture québécoise. Comme serveur, nous côtoyions ces artistes puisque leur loge se situait juste aux côtés du bar de service où nous travaillions. Ce faisant, nous étions souvent en contact avec tous ces artistes avec qui nous conversions, bien entendu. La liste est longue, de Gilles Vigneault à Jacques Brel, Barbara, Robert Charlebois, Marie Laforêt, Sol, Marc Favreau, René Claude, Michel Simon, Les Cyniques, Claude Dubois, Beaudommage et combien d'autres. À compter de 1972, le groupe Harmonium fit son entrée en scène au Patriote. Il se produisit à quelques reprises. Ce fut une petite révolution. Chaque fois, avec Harmonium, c'était l'explosion pure de la culture québécoise. Ce groupe lançait un tout nouveau rock à forte teneur harmonique. Par ses chansons enveloppées d'une musique enlevante, il touchait droit au cœur comme peu de groupes pouvaient le faire. La salle du Patriote était toujours pleine à craquer et à sauter. J'ai bien sûr assisté à plusieurs de ses prestations. Serge Fiori demeurait fort sympathique avec nous tous qui travaillions à rendre le meilleur service. Nous avons toujours établi une belle relation avec lui et son groupe. La pièce qui, à mon avis, exprime le plus ce son harmonique, c'est « Dixie », incluse dans le deuxième album « Si on avait besoin d'une cinquième saison ». À mon sens, il s'agit du summum de cette musique fine et envoûtante. Il faut l'entendre et la réentendre. Serge Fiori, musicien et chanteur, restera pour toujours un monument de la chanson et de la culture québécoise. Un géant. Notre John Lennon. Carole Lagrenade. Qu'évoque Serge Fiori pour moi? La fin de mon adolescence, le début de l'âge adulte. C'était notre John Lennon. Stéphanie Vallée. C'est une époque qui s'éteint avec Serge Fiori. On a toujours l'idée que ces grands sont éternels. Triste Saint-Jean 2025. Luc Lapierre. Il fait partie de la courte liste des musiciens d'exception. C'est avec sa musique qu'il parlait le mieux. Il demeure à lui seul une cinquième saison. Comme Félix, il laisse un grand vide qui ne sera jamais comblé. C'était « Souvenirs d'adolescence et de moments magiques » grâce à Serge Fiori, un texte de témoignage paru le 26 juin 2025 dans Le Devoir.